Ensemble.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer parce que tu es digne d'être adoré, d'être loué, d'être aimé, toi qui nous as aimé le premier. Permets que ce moment que nous passons ensemble, en cette belle journée ensoleillée, en cette belle journée de sabbat et de grâce, que ces moments que nous passons ensemble nous réunissent toujours plus près de Jésus, afin qu'on puisse former qu'un seul corps avec Jésus, être vraiment unique dans notre approche des autres et de la grâce que tu nous fais de te servir dans ce monde pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous étudions l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Et dans cette épître aux Hébreux, pardon, nous étudions l'épître aux Romains, mais dans l'épître aux Romains, on parle de la justification par la foi. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on parle des hommes et des femmes qui ont été justifiés par la foi. Hein, la grande nuée d'hommes et de femmes qui, à travers tous les temps, ont fait confiance en Dieu, en Jésus-Christ, et ont été appelés les héros de la foi. Et ils représentent cette immense foule qui va se trouver finalement devant le trône de Dieu. La liste de Jésus des héros de la foi du chapitre 11. Ce n'est pas une liste qui est complète, la liste Hébreux 11, vous en êtes bien conscient. Il y a certains noms, mais ça se termine ensuite par tous ceux qui ont été torturés, persécutés, et puis qui attendent la bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est une liste qui s'allonge de jour en jour lorsque quelqu'un, par la foi, accepte Jésus comme son sauveur personnel. Et ils feront partie, ces gens-là, de cette grande foule qui se trouve décrite ici dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 9. « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. » Il se tenait debout devant le trône de Dieu et devant l'agneau, vêtu de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Extraordinaire, n'est-ce pas, cette vision. Lorsque je me promenais cet été, il y a quelques semaines de cela, sur le boulevard Champlain, j'ai découvert qu'il y avait un groupe de cinéastes, je ne sais pas si c'est Radio-Canada ou quelconque autre poste de télévision, qui est en train d'interviewer quelqu'un en rapport avec les festivités de cet été à Québec. Et les personnes qui parlaient disaient « On a eu un succès extraordinaire, il y avait une grande foule qui se rassemblait sur les plaines d'Abraham, qui s'est rassemblée à l'occasion de ces festivités. Et ils étaient tous devant ce podium éclatant sur lequel il y avait des joueurs de musique, de quelconque musique que vous voulez, il y a des festivals ailleurs, et c'était pour certains extraordinaire, mais ces héros de la foi, ils ne se trouveront pas un jour devant une rampe éclairée avec des spots lumineux, avec des bombes fumigènes, mais ils vont se retrouver devant qui? Devant quoi? Devant le trône de Dieu, tel que indiqué là, pour l'adorer, le louer, non pas pour se distraire, pour s'amuser, pour avoir du bon temps, bien qu'on aura du bon temps, n'est-ce pas, lorsqu'on sera avec le Seigneur dans le ciel. Et ces gens-là, qui sont la suite des héros de la foi du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ce ne sont pas des gens qui ont accompli des actes héroïques, bien qu'on les appelle les héros de la foi. Ce sont des gens comme vous et moi qui se sont appuyés sur le seul acte héroïque qui compte dans l'histoire de l'humanité, c'est la mort, la résurrection et le mystère de Jésus-Christ aujourd'hui dans le ciel. Ça, c'est l'acte pour lequel ils sont inscrits dans les registres célestes. Et dans Hébreux 11, on les retrouve bien sûr et on parle, je l'ai intitulé ainsi mon sermon, la liste de Jésus. Peut-être il y a quelques-uns parmi vous, il y a quelques années, qui ont vu le film « La liste de Schindler », où on parle de cet homme d'affaires allemand qui, pour protéger les Juifs qui étaient menacés de mis à mort dans les camps de concentration et dans les fours crématoires, eh bien, il les avait inscrits sur une liste qui donnait à la Kommandantur Allemagne, de l'Allemagne, pour qu'ils puissent travailler dans son entreprise. Et ainsi, ils étaient protégés de la déportation, de l'extermination, de la Shoah. Et ces gens-là ont été sauvés, ces Juifs, ces Polonais, ces Juifs de différentes nationalités qui ont été mis sur la liste de Schindler, eh bien, ils ont été sauvés par leur travail. Mais dans la liste d'Hébreux 11, personne sur cette liste ne sera sauvé à cause de son travail. Par quelle vertu ils vont être sauvés? Par le travail de Jésus-Christ uniquement. Et vous savez que Jésus a fait le travail le plus extraordinaire dont nous puissions bénéficier. C'est son sacrifice, c'est sa vie parfaite, c'est cette offre gratuite, ce don merveilleux du salut qu'il nous offre à chacun d'entre nous. Mais l'ennemi veut tout faire pour enlever de notre cœur la foi. Peut-être que vous avez entendu sur les écrans des cinémas, il y a un film qui passait ou qui passe encore, qui s'intitule « Origine » ou « Inception » avec un acteur dont j'ai oublié le nom maintenant. Et la pensée de ce film, c'est que cet acteur est capable de voler dans la conscience, dans la mémoire des gens, des idées. Je ne connais pas le film dans le détail. Il est capable de voler. Et finalement, à la fin du film ou dans la suite du film, il arrive à l'idée que plutôt que voler, il pourrait introduire dans la conscience des personnes cibles vers lesquelles il s'adresserait quelque chose qui serait à son avantage, sans doute. Bien, le diable, lui, il veut voler la foi que Dieu a mis dans notre cœur. Êtes-vous conscient de cela? Le diable veut tout faire pour que nous ne fassions pas partie de la liste des héros de la foi. Il veut arracher de notre cœur, de notre conscience, la foi. Mais Dieu, lui, il veut introduire, non pas, j'allais dire sans notre consentement, non pas de manière cachée, mais avec notre propre consentement, la foi. Et vous savez de quelle manière cela se passe? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, Dieu donne la foi. Mais elle ne nous tombe pas dessus comme la pluie qui tombe le matin ou en après-midi. C'est quelque chose que nous devons développer et ce qu'il nous donne, c'est sa parole pour qu'en l'étudiant, en la lisant, en la méditant, en l'apprenant pour les plus courageux par cœur, eh bien, elle puisse devenir une source de foi de plus en plus incroyable. Pour être sauvé, il faut être inscrit sur la liste de Jésus. Et la liste d'Hébreux 11 n'est pas terminée, comme je l'ai mentionné, parce que chaque fois que dans le monde dans lequel nous vivons, un enfant, un jeune homme, un adulte, un vieillard place sa confiance en Jésus, son nom est inscrit sur la liste de Jésus. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Amen. Votre nom est inscrit sur la liste de Jésus parce que vous lui avez fait confiance et parce qu'il a choisi de vous sauver. Je vous invite à prendre Apocalypse 20, versets 11 à 15. C'est un texte un petit peu étrange parce qu'il parle beaucoup de mort, mais il parle aussi de ceux qui hériteront la vie éternelle. Apocalypse 20, 11 à 15. Et on retrouve là un grand trône blanc. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Et on poursuit pour le verset 15. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et ça ne sera certainement pas pour se rafraîchir, n'est-ce pas? Le Seigneur, il nous donne un rendez-vous, c'est de nous préparer à faire partie de cette grande foule qui le célébrera. Et là, je vous pose une question ou quelques questions. Comment, de quelques-uns éparpillés par-ci, par-là, en arrivera-t-on à cette foule grandiose qu'on ne peut compter? Parfois, vous savez, quand l'église de Saint-Henri n'est pas au complet, quand plusieurs sont en déplacement ou en vacances, comme je l'ai été moi-même, on pourrait se dire qu'on n'est que quelques-uns. On ne fait pas partie des grosses églises adventistes qui existent dans le monde entier, où il y a 2000, 3000, 5000 personnes. Et parfois, on est tout seul dans son village, dans son quartier, dans sa maison, à être un disciple de Jésus-Christ. Comment ces quelques-uns éparpillés de gauche et de droite peuvent finalement composer cette foule immense? Bien, vous savez que ça commence par les petits groupes. Je ne vais pas vous parler des petits groupes ce matin. C'est plus Vaillant Youth qui va le faire, et je l'ai déjà fait dans le passé. Mais vous savez que Jésus a dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. C'est lorsque quelques personnes décident de se rassembler par la foi pour louer le Seigneur, pour étudier sa parole, qu'ils peuvent devenir ces petits ruisseaux qui vont converger vers un plus grand ruisseau qui devient une rivière, qui devient un fleuve et qui devient un océan. Vous savez, il y a l'envers du décor. Dans Hébreux 12, j'ai ajouté ce texte, verset 23. Hébreux 12, verset 23, c'est intéressant ce passage-là aussi, qui nous parle des anges. Hébreux 12, verset 23. C'est sûr qu'il faut commencer un petit peu avant, verset 22, mais vous, l'apôtre parle aux Hébreux, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, etc., etc. Dans le ciel, il y a des myriades d'anges qui sont autour du trône de Dieu et qui vont nous assister lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur, lorsque nous serons dans le ciel. Vous savez, il y a eu beaucoup de festivals ou festivaux, qu'est-ce qu'on dit? Festivals ou festivaux? Festivals, cet été à travers le Québec. Et certains de ces festivals, n'est-ce pas, n'étaient pas du tout, sans doute, à la gloire de Dieu. Sans doute, peut-être quelques-uns, mais d'autres moins. J'ai lu le 24 juillet un article dans la presse qui disait la chose suivante en parlant d'une rencontre qui a eu lieu au parc Jean Drapeau à Montréal. Des milliers de fidèles, écoutez les expressions, communiaient à coups de séances d'air guitare et de signes du devil dans le cadre du Heavy Montreal, une sombre messe dopée de la testostérone. Le journaliste titre son article de la manière suivante, « La grande messe métal bat son plein ». Écoutez cette parodie de la scène fantastique décrite dans le livre de l'Apocalypse. Parce qu'on dirait que sur la terre, il y a des regroupements d'hommes et de femmes qui ne veulent pas faire partie du peuple de Dieu et qui, même au signe du diable, proclament leur allégeance. Dans cet article, l'auteur disait « Mais ce rendez-vous riche en décibels culminera évidemment plus tard aujourd'hui avec l'arrivée de Slayer ». Slayer, que ça veut dire? Quoi? Celui qui coupe la tête. D'Alice Cooper, Lamb of Good. Hein, il y a le Lamb of God. Puis là, il y a une parodie, le Lamb of Good. Plus loin, un groupe voit son chanteur interpréter quelques tubes, dont l'énergique 666, avant de céder sa place à Testament. Ça, c'est un groupe de musique rock. Puis, il est mentionné le groupe culte Judas Priest, les prêtres de Judas, tout un cocktail, n'est-ce pas? Et les jeunes voient leur esprit imprégné par les paroles qu'ils entendent de cette musique, qui les rendront la plupart du temps hostiles aux louanges, à l'évangile, à Jésus-Christ, à ce qui est beau et pur. Et l'auteur de dit, et les jeunes voient leur esprit imprégné par des paroles, de la musique, des idées qui les rendront hostiles à la foi, qui les rendront ennemis de la foi. Ça, c'est moi qui le dis, parce qu'il parle des t-shirts noirs qu'ils portent affichant leurs allégeances. T-shirts, le journaliste ajoute, dont la plupart seraient interdits dans les écoles privées de la province. Les grands rassemblements de l'été, s'ils ne sont pas tous de cette coloration ou de cette trempe, se concrétisent à partir d'un individu isolé qui se retrouve avec ses amis, ses chums, et qui célèbre dans la communion de la musique pop ou rock une messe à ces grands groupes de rock'n'roll. Devant le trône de Dieu, le grand rassemblement se fera par l'addition d'individus aussi qui sortiront de où? De la mare des incrédules, de la mare de la majorité des gens qui vivent dans notre société et qui ne veulent rien entendre parler de Dieu. À l'image des petites gouttes d'eau qui, rassemblées, forment de petites rivières qui deviennent des fleuves, bien les élus vont finalement converger vers le trône de Dieu et comme une foule immense, comme le bruit de grandes eaux, eh bien, ils vont proclamer la gloire de Dieu. Et alors la question que le passage nous propose de considérer ce matin, d'où sont-ils venus? Qui sont-ils ceux qui vont faire partie de la grande foule? Apocalypse 7, verset 13, ça va nous aider à trouver la réponse, bien sûr. Apocalypse, verset 13, à la page 237, chapitre 7, verset 13. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » J'ai été un petit peu plus loin. Nous savons d'où ils viennent. Ils viennent de la grande tribulation. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et bien sûr, on pourrait parler des 144 000, mais ce n'est pas le but et l'objet du message de ce matin. Comme promis par Dieu à Abraham, le père des croyants, ils sont des croyants provenant des extrémités de la terre. Ils viennent de gauche et de droite, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils viennent de cette terre qui a été ravagée par le péché, mais eux, ils ont placé leur confiance en Dieu qui les a restaurés de la puissance du péché. Ils faisaient partie de la grande foule de l'humanité. Nous faisons tous partie de la grande foule de l'humanité. Mais comme Jésus disait, je crois que c'est lui, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont parmi la foule, mais ils ne font pas de compromis avec la foule. Ils faisaient partie aussi de la foule qui suivait Jésus en Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, nous dit le texte, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint vers lui. Les foules ont commencé il y a bien longtemps à se rassembler et à suivre Jésus. Ils font partie de la foule assise alors que l'heure est bien avancée dans ce lieu désert où il n'y a rien à manger. Puis Jésus demande à Pierre d'aller chercher un petit garçon, André, c'était pas Xavier, c'était André. Puis il dit « Amène tes sandwichs, amène ta boîte à lunch ». Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va multiplier les pains et les poissons pour nourrir cette foule qui avait été bien assise, bien en rang, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas tous là dans le désordre. Ils étaient bien organisés pour recevoir la nourriture dont Jésus allait leur donner ce dont ils avaient besoin. Ils font partie de ces millions de croyants qui, envers et contre tout, sont demeurés fidèles à Jésus-Christ malgré l'adversité, malgré les difficultés. Vous vous souvenez le film ce matin de Mission Mondiale où on a vu ce missionnaire en Inde qui s'est fait brûler sa Bible, qui s'est fait tabasser par les gens qui ne voulaient pas le voir dans son village? prêcher l'Évangile, bien, ils sont restés fidèles, cette grande multitude qui se trouvera devant le trône de Dieu. Ils sont finalement, à travers tous les temps, ceux qui auront répondu à l'invitation des trois anges d'Apocalypse 14, même s'ils n'étaient pas présents dans l'Ancien Testament, pour faire quoi ? Parce qu'ils ont voulu adorer Dieu comme étant le Créateur des cieux et de la terre. Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, quand il est parlé de la mort de Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont vu ce spectacle impressionnant ? Parce qu'on parle d'un spectacle, j'ai été surpris de lire ça dans la version du Semeur, que l'auteur traduit le spectacle, quand ils ont lu le spectacle de Christ sur la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont repartis, se frappant la poitrine, tellement ils étaient estomaqués, tellement ils étaient scandalisés, tellement ils étaient renversés par le sacrifice de l'agneau. Retrouvons-les dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, au verset 17. Chapitre 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu d'eux, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous ne connaissons pas les noms de tous ces gens-là, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté le cadeau de la justice de Christ. Ils avaient affirmé et prouvé dans leur vécu face à la persécution que rien ne les retarderait dans leur course chrétienne. Apocalypse 19, verset 6 maintenant. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, le texte que nous avons lu tout à l'heure, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ? Ils étaient à l'image donnée par Jésus comme des brebis sans berger. Ils étaient à l'image donnée par Jésus dans les béatitudes des hommes et des femmes qui avaient faim et soif de la justice. Ils avaient tellement été assoiffés de la justice de Jésus, ils avaient tellement été sûrs qu'ils allaient obtenir la guérison, qu'ils s'étaient amassés autour de Jésus. Et c'est intéressant de lire certains passages qui nous disent que Jésus, ayant peur d'être écrasé par la foule, avait demandé à ce qu'on lui apporte, on lui amène, on achemine au bord de l'eau une barque dans laquelle il pourrait se mettre à l'abri pour ne pas être écrasé par la foule. Il y a quelques années, ça fait assez longtemps, j'habitais à Londres et j'ai voulu assister à un concert des Beatles. Et il était question d'aller chercher des billets quelque part. Et on était dans une petite ruelle, tous entassés comme des sardines, écrasés les uns et les autres. Il y en a qui tombaient par terre d'inanition. Et on ne savait pas comment on survivait, tellement on était coincé et serré. Bien, la foule qui se rassemblera autour de Jésus-Christ ne sera certainement pas dans cette condition-là, n'aura pas d'avoir peur de mourir, de tomber dans les pommes, comme on dit, hein, n'est-ce pas, en bon français. Bien, ils sont venus, ces gens-là, aussi de, savez-vous où, en premier, de nos familles, de notre quartier, de notre village, de notre ville, pour autant que nous faisions le travail que le Seigneur nous a confié de partager la parole dans les conditions qui ne sont pas faciles aujourd'hui. Dans justement la revue Adventist World, il est parlé d'une série de conférences qui ont été données à Rome. Ça fait 50 ans que l'Église adventiste n'avait pas fait de conférence à Rome, la capitale de l'Italie, avec Sean Bonstra. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté l'Évangile et qui vont être baptisés. Vous pourrez lire cet article prochainement dans la revue. Malgré toutes les difficultés qui ont été placées pour empêcher les gens, finalement, de participer à ces rencontres. Donc, ils viennent de partout. Ils viennent des villages, ils viennent des villes, ils viennent des pays dans lesquels nous vivons. Mais le diable n'est pas content, n'est-ce pas, de ce qui se passe et il veut tout faire pour arrêter ce mouvement d'amour envers Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a quelques semaines en arrière, en Allemagne, à Duisbourg, en Allemagne, il y a eu un festival, une parade de musique quelconque qui s'appelait la Love Parade, parade de l'amour, et il y a plein de gens qui ont été piétinés, écrasés par la foule dans un mouvement de panique. Ce n'est pas ça qui se passera quand nous irons à la rencontre du Seigneur, quand nous passerons par les portes de la Nouvelle Jérusalem et que nous irons à sa rencontre. Marc 3, versets 9 à 10, nous parle de peut-être quelque chose qui est maintenant dépassé, nous allons le laisser de côté. Bientôt, si nous sommes fidèles, que nous persévérerons, nous entrerons dans les portes de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 14, versets 1 à 3. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Bien sûr, on parle dans le langage symbolique de souillure, non pas de relations sexuelles physiques. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Une grande foule, n'est-ce pas? Lorsque j'étais, comme je vous l'ai mentionné, à Atlanta, à la conférence générale, il y avait une grande foule, humainement parlant. 70 000 personnes rassemblées dans un stade. Mais la foule qui va se trouver devant le trône de Dieu va être constituée d'hommes et de femmes de toutes les nationalités, de toutes les races, de toutes les cultures. Et c'est pour ça que l'Église doit être un lieu qui inclut toutes les cultures, qui doit ouvrir ses portes à toute personne qui veut entendre parler de l'Évangile. Et alors que ce peuple de Dieu sera rassemblé devant le trône de Dieu, bien, il louera le Seigneur de tout son cœur. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Vous savez que Dieu n'inscrit pas notre nom sans notre consentement. Dieu nous dit par l'apôtre Paul que dès les temps anciens, Dieu nous a prédestinés au salut. Hein? Dieu veut que nous soyons sauvés, veut que tous les hommes soient sauvés, mais est-ce qu'il pourrait imposer son salut à qui que ce soit? Non, il attend que nous acceptions de faire partie de son peuple, de sa famille, et que nous lui disions joyeusement et avec reconnaissance que nous voulons être son enfant, que nous voulons être son serviteur. La plupart d'entre vous ici avez déjà accepté d'être membre du peuple de Dieu, qui va rassembler cette multitude d'hommes et de femmes de tous les temps devant le trône de Dieu. Si quelqu'un ne l'avait pas fait, je l'inviterais à le faire ce matin. Mais pour la plupart d'entre nous, est-ce que nous ne pourrions pas nous réjouir que notre nom est inscrit dans le livre de l'agneau? Amen. Nous réjouir de ce que personne ne peut enlever notre nom des registres du ciel, à moins que nous choisissions de nous détourner de la grâce de Dieu et de claquer la porte pour faire la vie à notre manière. Le Seigneur a inscrit notre nom dans son livre et nous pouvons le conserver précieusement jusqu'à la fin en sachant que c'est par le sang de Jésus que nous sommes inscrits dans le registre de l'agneau. Que le Seigneur nous accorde la grâce de se réjouir d'être le peuple de Dieu, d'être parmi tous ceux et celles qui convergeront vers le ciel dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Je ne le sais pas, Dieu seul le sait. Et un cantique que nous pourrions chanter, mais nous n'avons pas les capacités de le faire, c'est l'Alléluia de Handel, dit la chose suivante, et après nous allons chanter notre propre Alléluia. Alléluia, car le Seigneur Tout-Puissant règne. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et il régnera dans les siècles des siècles. » Rappelez-vous, l'adoration en tant que chrétien, c'est non pas « nous devons être généreux » parce que le service de la collecte que nous allons maintenant avoir, et je demande au diacre de se préparer, c'est « Dieu est un généreux donateur, nous voulons simplement lui apporter quelque chose qu'il nous a déjà donné. » Alors j'invite les diacres à venir, s'il vous plaît, et à récolter ce que vous avez apporté pour louer le Seigneur. Puis ensuite, nous aurons le cantique qui va apparaître sur l'écran, qui nous permettra de continuer d'adorer Dieu ensemble.